Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'artiste québécois Simon Kearney. Simon Kearney est un jeune auteur, compositeur et interprète, mais il a déjà 3 albums à son actif, le premier datant de 2016. Le dernier en date, America, est sorti en 2022. L'artiste propose une variété de sonorités qui jonglent entre romantisme, humour et autres sujets, le tout dans un style qu'il définit lui-même de pop and roll, une démarche qui invite presque toujours à la danse. Le premier extrait que vous allez entendre est le titre éponyme du dernier album en date de Simon Kearney, America. Sans trop spoiler ce qui vient, Simon s'affirme de lui-même comme étant un amateur de pop musique. Et je pense que ça va de soi quand on écoute ce titre. Info, il se trouve dans l'épisode qu'à un moment donné, Simon et moi, on se demande si l'artiste dont on parle est encore actuelle et si elle se produit encore sur scène. Et on passe rétrospectivement un peu pour des cons, parce que littéralement le lendemain de l'enregistrement, j'ai capté que cet artiste faisait le Zénith de Paris le jour même et que l'entièreté de mon Instagram s'y rendait. Bref, vous avez le droit de vous moquer de cette désinformation de ma part. À part ça, j'ai découvert Simon Kearney au grand hasard de ma playlist découverte sur Spotify avec le titre « Deux pieds dans la tombe », également single extrait de son dernier album. Je pense qu'elle fait désormais partie de ma playlist qui s'intitule « En boucle ».
Oublie les fleurs, apporte-moi un peu de chaleur. Deux pieds dans la tombe, tu vas me faire mourir avant d'être ma plante. Tu me donnes ta tchava.
Salut Simon.
Salut Raphaël.
Ça va?
Ben oui, toi?
Ouais, ça va, merci. Ben merci beaucoup d'être là, ça me fait plaisir. Et j'ai qu'une simple question pour commencer, c'est quelle est ta daube du jour?
Ben là, premièrement, Raphaël, faut que tu saches que le mot daube, c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Mais ce que j'ai compris du concept de l'émission, c'est que c'est une chanson qu'on aime en secret un peu. Donc moi, la chanson que j'ai choisie, c'est Complicated de Avril Lavigne.
Alors oui, revenons là-dessus rapidement parce que j'en parlais justement avec des collègues juste avant et moi j'ai déjà fait le podcast avec 2 artistes québécois, j'en reçois pas beaucoup mais et c'est pareil, je crois que c'était un peu obscur pour eux ce terme de la daube parce que c'est de la nourriture mais en France ça veut aussi dire ouais de la merde quoi.
Ah, c'est pas de la merde cette chanson-là.
Je sais, t'es là pour la défendre. Mais vous dites comment du coup pour dire que, enfin, une musique un peu plaisir coupable, ouais. Vous avez une expression?
Est-ce qu'on a une expression pour ça? Rapidement comme ça me vient pas. Non, je pourrais pas dire. Mais plaisir coupable, c'est vraiment le terme qu'on utilise.
Alors, figure-toi que c'est la deuxième fois sur ce podcast qu'on me parle d'Avril Lavigne. C'est, la première fois, c'était un artiste qui s'appelle Voyou, qui donc lui est français. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on me parle d'une même artiste pour la deuxième fois. Et lui, il m'avait aussi parlé d'un titre qui provenait de Let Go, donc ce premier album dont est issue ta musique aussi, qui date donc de 2002. Et pour lui, le choix, il était justifié par une réalisation relativement récente de son attachement pour la dite chanson, qui est le titre « I'm with you », parce que ça lui rappelle un attachement qu'il a à une amie proche et tout, à lui. Et moi, je voulais savoir si toi aussi, c'était un amour relativement récent ou si plutôt t'es un peu dans la nostalgie par rapport à Complicated.
Non, moi, c'est vraiment... ça vient vraiment de ma jeunesse puis de la nostalgie. Je sais pas comment ça se passe. Ben moi, je suis un produit de 1996. Fait que j'ai grandi dans l'ère du pop, punk pop. Donc, Blink 182, Simple Plan, Sum 41. Fait que, ben, tous ces groupes-là, j'ai grandi avec cette musique-là. Puis, en étant jeune, souvent, on est comme les trucs qui sont plus digestes. C'est de la musique, oui, punk, mais avec une sensibilité pop. Parce que la pop, les enfants, on aime ça. Tu sais, il y a des hooks, il y a des affaires qu'on est capable de se rappeler rapidement. Fait que Avril Lavigne, ça tombait en plein dans la bonne case pour que je consomme cette musique-là. Puis on va se le dire, ben moi j'ai comme découvert plus Avril Lavigne à son deuxième album parce que sinon j'étais un peu trop jeune, mais j'étais en amour avec Avril Lavigne là. C'est mon premier crush. J'avais un poster dans ma chambre là, puis je rêvais que ça soit mon amoureuse.
Bah, c'est le crush ultime, je pense. Moi, j'avais pas de crush, mais je sais que toutes mes Sims, quand je jouais aux Sims quand j'étais enfant, elles étaient habillées comme elles, par contre. Parce que,
bah oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est tellement bien réfléchi. On y donne l'image de l'artiste punk rebelle, mais au final, c'est vraiment comme un produit commercial à fond, géré par une grosse maison de disques qui ont fabriquer une image sur mesure, puis après ça, ben, les jeunes, on consomme ça, puis on se dit « Ah, on est donc ben punk parce que on a des trous dans nos chandails, puis on porte des Converse. »
Ouais, mais classique. C'est marrant que tu dises ça, justement, toutes les références que tu as citées avant, parce que, bah, personnellement, donc, j'avais 7 ans quand cette chanson est sortie. Moi, je suis de 95. Et donc, j'avais pas de recul et j'avais peu de culture sur ce qui se faisait un peu ailleurs, ou alors sinon américaine, etc. Et du coup, bah, par exemple, je pensais, et je pense que c'est le cas de pas mal de Français, mais qu'Avril Lavigne était américaine. Et je l'ai su que rapidement que, en fait, non, elle était canadienne. Et du coup, je la rangeais un peu dans le même panier que Simple Plan ou Sum 41, Sum 41, comme on disait.
Par exemple, Simple Plan, c'est... En plus de pas être un groupe américain, c'est un groupe québécois.
Ouais, c'est québécois, oh. J'ai vu, je me suis rendu compte. Ouais, donc grosse fierté. Justement, je me demandais, à ton avis, parce que en fait, nous, on avait, tu vois, ces clips qui passaient à la télé aussi en France. Ça passait beaucoup, c'était vraiment des tubes, mais on avait quand même toujours un peu notre culture française à nous qui primait dans l'actualité. Et je me demandais si, à ton avis, de par ta proximité géographique, notamment avec Avril Lavigne et ces groupes-là, si t'as été davantage baigné là-dedans, justement.
Ben, je crois que oui, tu sais, Simple Plan, c'est au Québec, on a un peu une culture que l'artiste, admettons, quand un artiste perce à l'international, bon, on devient extrêmement fier de cet artiste-là, puis on va comme le soutenir jusqu'à la fin des temps. C'est ça qui s'est passé avec Céline Dion, avec, si je pense au sport, Georges Saint-Pierre, le combattant du UFC. Puis Simple Plan, c'était un peu l'équivalent. Fait que, tu sais, ils ont eu beaucoup de place dans les médias, on en parlait souvent, puis dès qu'il y avait comme un exploit qui était fait par eux, ben on prenait ça un peu comme notre propre exploit en soi. Fait qu'ils sont venus souvent en spectacle à Québec, dans ma ville. Je les ai vus plusieurs fois, même une fois après le spectacle, j'ai amené ma guitare puis je leur ai joué une chanson.
Oh wow!
Mais d'après moi, ils s'en souviennent pas, mais moi, c'était un moment marquant de ma jeunesse d'avoir joué une tune. J'avais joué une tune de Green Day, Time of Your Life,
mais ils l'ont pas mal pris.
À la guitare acoustique. Ben, je connaissais pas de tune de Simple Plan. À 12 ans, tu connais genre 4 chansons. Fait que là, mais il y en avait pas de Simple Plan là-dedans.
Attends, mais c'est super classe. Mais t'as réussi, parce que à ta place, moi, j'aurais trop tremblé. Enfin, j'aurais pas pu, quoi.
Ah, mais quand t'es jeune, on dirait que ces choses-là, je sais pas c'est où que tu trouves la force de faire ça, mais non, j'étais arrivé avec ma guitare, puis j'ai fait, hey, regardez ça, je vais vous jouer une tune.
Ah, mais trop bien. Et ils ont, enfin, est-ce que dans ton souvenir, t'es content objectivement de ce que t'as sorti ce jour-là ou pas?
Ah, bah, j'imagine que ça devait être vraiment cute. Est-ce que c'était bon? Ça reste à voir.
Mais ils ont applaudi, quoi. Ils ont dit bravo.
Oh, ouais. Puis après ça, séance de signature, puis j'étais un enfant comblé.
Trop stylé. Et du coup, donc, ça remonte à donc, la très jeune adolescence pour toi, du coup, cet amour d'Avril Lavigne. Est-ce que tu l'écoutes encore aujourd'hui avec, enfin, peut-être pas autant, mais quand tu l'écoutes, effectivement, c'est toujours les mêmes sentiments que tu éprouves. Alors, pas forcément amoureux, peut-être que tu croches plus sur elle, mais est-ce que tu aimes toujours autant ce que tu entends?
Oui, ben, c'est sûr qu'il y a une part de nostalgie, puis des fois, c'est tout le temps la question, genre, est-ce que j'aime ça parce que j'ai une nostalgie derrière ou c'est encore vraiment bon. Honnêtement, je peux pas te répondre là-dessus, mais quand j'écoute ça, ça me procure vraiment un sentiment le fun. Puis aussi, c'est ma chanson de karaoké. Fait que,
ok.
Entre autres, pourquoi je l'aime puis je l'écoute encore, c'est parce qu'il faut que je me pratique au cas où finalement on débarque dans un bar karaoké puis il faut que je chante une chanson.
Ouais, c'est ton go-to karaoké, ouais. Et, mais c'est compliqué ou pas comme chanson à interpréter ce genre de truc?
Non, mais le débit des paroles est quand même relativement lent, puis le refrain, on s'en souvient rapidement. Fait que je pense que ça chante bien, puis moi j'ai une voix baryton. Fait que j'ai quand même on dirait que quand je chante, c'est aigu, mais en réalité, le registre est quand même bas. Fait que je suis capable de chanter la chanson d'Avril Lavigne, mais un octave en dessous, puis ça fit avec ma voix.
Donc, t'as surtout découvert à partir du deuxième album, comme tu le disais. Donc, après, t'es revenu, je suppose, donc au premier. Est-ce que t'as choisi notamment cette chanson parce que, bon, bah, c'est un des gros tubes d'Avril Lavigne et qu'il est assez emblématique. Mais est-ce que c'est un attachement, effectivement, particulier pour cette chanson, hormis le fait que ce soit ton go-to karaoké? Ou est-ce que tu l'as suivi aussi dans cette période? C'est pareil, j'en parlais avec cet autre artiste qui m'avait parlé d'elle, où moi, je me rappelle surtout, parce que comme tu disais, elle était un peu vue comme une badass, elle faisait du skate avec ses potes, elle fout le bordel au centre commercial, etc. Mais après, tu sais, elle a une période un peu girly, là, avec Girlfriend et tout. Est-ce que ça aussi, t'aimais ce genre de truc?
Ben, honnêtement, ça coïncide aussi avec le fait que moi, j'y essaie puis je découvrais d'autres groupes de musique. Fait qu'à partir de ça, j'étais comme... Non, tu sais, j'ai quand même renié la partie, justement, là, la chanson Girlfriend. Puis c'était comme... C'est ça, c'était peut-être plus... J'étais plus le public cible. Fait que là, rapidement, ben, j'ai décroché. Puis là, j'ai découvert de la musique différente aussi, là, parce qu'on vieillit puis nos goûts changent.
Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, elle fait un comeback, là, je crois, un peu.
Ouais, je pense qu'elle est en train de réessayer de sortir un album. Je sais pas s'il est sorti d'ailleurs, mais...
Ouais, je sais pas. Je me suis pas renseigné sur ça. Et alors, de ce que j'ai compris avec les paroles, alors je sais pas si c'était ça qui t'avait touché notamment dans cette chanson, dans son œuvre en général, mais donc de ce que j'ai compris des paroles de Complicated, c'est qu'elle a l'air de faire comprendre à quelqu'un, donc probablement un love interest, qu'elle se sent un peu frustrée parce que quand ils sont dans une relation... a priori saine quand ils sont que tous les deux, mais quand ils sont en public ou dans un contexte social, la dite personne, son love interest, change d'attitude, de vêtements, de façon de parler, etc. Est-ce que c'est un thème qui t'avait interpellé notamment? Est-ce que ça te parle?
Mais peut-être qu'inconsciemment, j'ai trouvé ça le fun, genre de... Parce que quand on est adolescent, on est genre, ah, les gens sont tellement... ben, je sais pas si vous dites ça en France, mais fake. C'est, ouais. En fait, c'est un terme anglais. Les gens sont fake. On est les seuls, genre, qui sont... quand on agit, c'est vraiment la vraie version de nous-mêmes. Puis, ah, tu sais, on en veut un peu à l'humanité complète. Fait que, tu sais, une chanson de même, c'est comme, ah, ce gars-là, là, il est tellement post-mat, finalement. Ben, je sais pas, on se reconnaît, genre, dans cette espèce de petite colère-là, frustration d'adolescent. Fait que, ouais, il y a ça. Puis, aussi, c'est ça. Quand on est adolescent, on est rempli d'émotions, puis on a besoin de les vivre. Fait que, ça me touchait plus que Skater Boy, finalement, là. L'autre gros hit sur cet album-là, qui est comme plus une chanson joyeuse, qui parle de la fille. C'est comme, ben, c'est ça, là, la relation, c'est pas la même énergie Complicated, selon moi.
Ouais, ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça, effectivement, cette énergie très adolescente d'en vouloir au monde entier, c'est vraiment la période où on est le plus premier degré, quoi, où on a ouais. très peu d'autodérision et effectivement, on prend tout vachement à cœur. Et donc, effectivement, ça parle beaucoup aux adolescents, mais je me disais, tu vois, enfin, n'étant pas moi-même artiste en soi, mais c'est quand même des sentiments dans lesquels je peux encore me retrouver adolescente parfois, par moments, dans certains moments de vie. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, le premier degré ou le second degré, justement, c'est important dans ton œuvre à toi?
Ouais, ben, il y a plusieurs types d'écriture pour écrire des chansons. Moi, je trouve que ce qui me touche le plus, c'est quand il y a plusieurs degrés ou de niveaux de compréhension d'un texte, puis que le premier... Ben, a priori, tu peux lire le texte et comprendre tout le sens. Puis au deuxième niveau, ben là, il y a une poésie comme adjacente qui laisse comme plus... faut faire travailler l'auditeur. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire. Tu sais, j'ai une chanson sur mon deuxième album qui s'appelle « Mes pens ». Puis là, le refrain, c'est « Mes pens, j'aimais pas souvent. Mes pens, j'aimais de temps en temps. » Fait que là, genre, ça a l'air niaiseux. C'est-tu juste une toune qui parle de mettre ses culottes? L'expression mettre ses culottes, c'est comme s'assumer dans la vie. Mais non, au final, tu sais, cette chanson-là parle de s'assumer dans la vie. Il y a un passage qui parle du passage à l'âge adulte. Il y a même des références l'indépendance du Québec, parce que tu sais, au Québec, on n'a pas mis nos culottes, puis on a décidé de pas avoir un pays, tu sais. Fait que c'est ça, c'est le genre de texte que j'aime. Premier degré, ça a l'air d'être une chanson qui parle de mettre ses culottes. Deuxième degré, ben c'est une chanson qui parle en réalité de s'affirmer dans la vie. T'sais.
Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que de ce que j'ai écouté, de ce que tu fais... D'ailleurs, tu es prolifique parce que j'ai vu que en fait, c'est ton troisième album que tu as sorti, là.
Ouais, je suis prolifique, mais ça fait vraiment longtemps que je fais ça, par exemple. Il y en a
déjà,
qui commencent à...
Déjà, à 12 ans, tu chantais devant Simple Plan, donc...
Ah non, c'est ça, là. Mais après ça, ça a été difficile de monter la barre plus haute, par exemple.
Ouais. Oui, oui, bah normal, normal. Mais alors, je sais plus pourquoi je disais ça, que tu étais prolifique, tu avais sorti un troisième album. Oui, parce que, voilà, de ce que j'ai entendu de ce que tu fais, c'est vrai que tu as... C'est assez exubérant dans le fait où il y a effectivement beaucoup d'éléments qui se ressemblent pas forcément toujours. Enfin, on voit que t'as pas peur d'expérimenter en tout cas, je trouve, dans tes chansons, qu'il peut y avoir effectivement un côté un peu parfois romantique, parfois pas du tout, et que effectivement t'as l'air de toucher un petit peu à pas mal de styles. Je trouve que c'est un peu dur de te catégoriser, mais c'est plutôt un compliment parce que je trouve que moi, on catégorise plus, c'est intéressant, quoi. Mais voilà, donc tout ça pour dire que toi, t'as forcément été influencé, du coup, je suppose, dans tes tout débuts, puisque ça fait longtemps, comme tu dis, que tu fais ça. T'as été sans doute influencé par ces groupes que tu écoutais, justement, quand t'étais plus jeune.
Ah, ben c'est sûr, je pense que... On en parlait au début, le côté plus pop de cette musique-là qui est supposée d'être du punk, mais en réalité, j'aime ça dire que c'est de la musique pop qui a été maquillée, tu sais. Fait que cette sensibilité-là de la musique catchy avec des refrains qu'on est capable de chanter du premier coup, je crois que je l'ai vraiment assimilé rapidement. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, ah, je pourrais essayer de faire une chanson un petit peu plus moins formatée, avec aussi plus un trip de son psychédélique, mais je reviens toujours à faire une chanson pop parce que j'ai grandi là-dedans, tu sais. J'écoutais pas vraiment du Metallica, là, j'écoutais de la musique pop. J'ai toujours aimé ça. Je trouve que il y a une difficulté à faire de la musique qui va être appréciée par un grand nombre de gens. C'est facile. Plaire à une clique précise qui aime telle esthétique puis qui aime tel style de chanson, mais c'est encore plus difficile à aller rejoindre un grand, grand nombre, bassin de personnes. Donc, ouais, je pense que ça vient probablement de mon passé d'Avril Lavigne.
C'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en général, quand je parle du concept de mon podcast à des gens, on va me dire que, tu vois, typiquement que Britney Spears, c'est de la daube ou c'en a été, donc c'était de la merde ou des choses comme ça. Et c'est vrai que, quand même, la question se pose, parce que quelque chose de très mainstream, quelque chose de très pop, populaire, quoi, faut y aller quand même pour plaire au plus grand nombre, finalement. Donc effectivement, ça a l'air d'être très simple une fois que le rendu est fait, mais il n'empêche que c'est des musiques qui font des milliers, des millions de streams, et c'est pas donné à tout le monde. Et effectivement, la musique pop y arrive mieux que quiconque, en fait, j'ai l'impression.
Ah, vraiment? Puis quand on regarde les crédits de ces chansons-là, là, c'est pas seulement une personne, la tradition, auteur-compositeur, je sais pas trop là, comme exemple que je pourrais donner. C'est pas, mettons, Brassens qui est là avec sa guitare sur le coin d'une table en train d'écrire ses textes, puis là, il pense qu'il est fini, puis c'est tout. Là. Non, ils sont genre 6, 7, des fois 8. C'est quasiment comme ils devraient mettre des sarraux de scientifiques là, pour créer genre le produit final que tout le monde va aimer du premier coup. C'est de la science, tu sais. Puis il y a quelque chose de vraiment fascinant là-dedans. Sinon, il y a un artiste, un auteur, un compositeur suédois qui s'appelle Max Martin. Puis lui, c'est comme un espèce de génie de la chanson pop. C'est lui qui a fait les hits des Backstreet Boys. Il a fait des chansons pour Britney Spears, Katy Perry, Bon Jovi. Puis celui, ce musicien-là, il a plus de hits dans les charts que Elvis ou les Beatles, mais on connaît pas son nom.
Ouais.
Mais cette personne-là, dans le fond, a comme changé le visage de la musique pop depuis les années 80. Puis lui, il travaille tout le temps avec plein d'autres songwriters. Puis c'est ça, c'est une machine qui est super bien construite, qui est une machine à hits. Puis c'est... Il y en a qui sont pas d'accord avec... Parce qu'ils trouvent que ça enlève un peu la magie puis l'émotion dans la chanson, mais... Moi, je trouve qu'il faut quand même un certain talent pour faire ça, puis ça me fascine beaucoup.
Ouais, je suis d'accord, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, enfin, je veux pas faire de généralité, parce que comme je disais, effectivement, j'ai reçu, tu es mon troisième artiste québécois, mais j'ai l'impression, en tout cas, avec cette troisième interview, quand même, que au Québec, je sais pas encore une fois si c'est parce que vous êtes sur le continent et que du coup vous êtes un peu plus baigné dans cette culture-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une tolérance que nous on a moins en France, en tout cas de mon temps. Par exemple, en 2002, quand Avril Lavigne était au moment de Complicated, moi je sais qu'il y avait une pudeur vraiment par rapport à la musique mainstream. C'est-à-dire que oui, Avril Lavigne, on voyait très bien, Britney Spears, on voyait très bien, Christina Aguilera, on voyait très bien, mais c'était un peu la honte quand même de dire qu'on était fan, alors que il y a vraiment, je trouve que les artistes québécois que j'ai rencontrés ou que j'ai interviewés ont vraiment une culture en musique pop, et que du coup, ça a été plus assumé de votre côté d'aimer ce genre de musique.
Ouais, mais je pense que pendant plusieurs années, ça a été comme un peu quelque chose d'ironique d'aimer ces chansons-là. Puis là, l'ironie a comme rattrapé la réalité. Puis finalement, on se gêne plus. Admettons, on prend notre guitare ou notre piano, puis là, on commence à composer une chanson. Puis oh, hey, ça sonne vraiment comme du Britney Spears. Puis hey, j'aime vraiment ça. Tu sais, là, on a choisi de parler d'Avril Lavigne, mais moi, mon idole, puis je le dis sans aucune gêne, c'est Bruno Mars.
Je suis allé
jusqu'à prendre des cours de danse durant la pandémie pour pouvoir danser comme Bruno Mars. Je dirais pas que j'ai réussi à atteindre son niveau de talent comme danseur, mais non, mais il y a quelque chose de dans la musique pop qui est flamboyant, qui est décomplexé, qui fait que on n'a pas peur d'aller genre au maximum de l'idée, puis c'est quelque chose que je trouve qui est regrettable dans peut-être la musique des années 90, où on est revenu à les cheveux d'en face, les jeans, puis les chandails tout sales, puis comme s'il y avait comme... Ben, je sais que c'est une esthétique, puis il y a quand même une démarche derrière, mais moi, je préfère les costumes en glitter, puis les feux d'artifice, là. C'est ça qui me fait triper, puis je pense que les gens ont besoin de ça, ils ont besoin de sourire, ils ont besoin de passer du bon temps, puis la musique pop, c'est ça que ça l'offre.
Ouais, et puis en plus, c'est vrai que c'est intéressant, parce que pour le coup, Bruno Mars, c'est aussi vraiment un exemple très pertinent de musique pop, mais il n'empêche que j'ai l'impression que c'est comme si c'était toujours compliqué de les mettre sur le même plan, par exemple lui et Avril Lavigne. Alors pour ce qui est de la musique en soi, effectivement, ils sont quand même vraiment différents. Mais il n'empêche que je pense que c'est quand même toujours plus acceptable, par exemple, d'admettre qu'on aime Bruno Mars parce que, comment dire, elle chantait bien, si tu veux, mais lui chante extrêmement bien. Enfin, il chante des choses qui sont super difficiles, qui m'ont l'air d'être plus compliquées qu'elle, encore une fois, à l'époque de Complicated. De toute façon, je m'y connais moins en Avril Lavigne. Mais en plus, tu vois, j'ai regardé, elle avait 16-17 ans à cette époque. C'était vraiment une gamine, en fait, pour le coup. Et elle, dans son clip, encore une fois, voilà, elle fait du skate avec ses potes. Le but, c'est vraiment d'aller foutre la merde au centre commercial, etc. Lui, il est toujours en train de danser. Il est archi raccord avec ses danseurs et tout. Donc, c'est pareil, même là, j'ai l'impression qu'il y aurait quand même un fossé dans l'appréciation de ces deux artistes qui sont pourtant deux piliers de la musique pop, effectivement.
Ouais, ben je pense qu'il y en a un qui est vraiment un produit créé par des maisons de disques pour plaire à des adolescents, adolescentes, tandis que l'autre, c'est peut-être, ça peut cibler plus les adultes. Puis c'est de la musique aussi qui fait des clins d'œil à les années 70, les années 80. Fait qu'encore là, ben ça va chercher une large clientèle. Ça va chercher les personnes plus vieilles qui sont nostalgiques. Puis les jeunes qui redécouvrent cette musique-là, qui ont acheté des vinyles ou qui ont découvert, c'est ça, la musique des années 70. Puis là, ils font des liens avec la musique de Bruno Mars. Fait que, puis aussi, c'est clair que, tu sais, moi, j'ai étudié en musique. J'ai étudié la guitare classique puis la guitare jazz. Fait que mon oreille, des fois, peut pas juste se sustenter de musique pop cliché. Puis Bruno Mars, ben c'est là que j'y lève mon chapeau, c'est qu'il est capable de faire des hits avec une complexité musicale qui est vraiment qui est poussée. Tu sais, il y a des accords jazz là-dedans, il y a des arrangements qui sont de strings, de violons, de cuivres qui sont vraiment étoffés là. Puis ça joue dans les radios. Fait que ça c'est ce serait mon but ultime.
Bah, et puis, lui, on le connaît depuis moins longtemps. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il est paru quand même après Avril Lavigne. Ou en tout cas, il est peut-être connu, il est devenu connu un petit peu après. Tu l'aimes aussi depuis le début, lui?
Non. Bruno Mars, en réalité, comment ça s'est passé, c'est que ma mère a acheté des billets pour aller voir le spectacle à Québec au Centre Vidéotron. Puis là, dans ma mère, elle m'a dit « J'ai une paire de billets, veux-tu venir avec moi? » Puis là, j'ai juste répondu « Arc, non, je veux pas aller voir ça. Là, c'est trop de la musique. C'est de la musique pour la radio. Non, j'aime pas ça. » Puis là, elle est allée avec une de ses amies. Ils ont eu vraiment du plaisir. Puis là, le CD traînait sur le comptoir. Puis là, je boudais le CD constamment. Je le voyais, je passais devant, mais je voulais comme pas y toucher. Puis à un moment donné, j'ai juste fait « Ah, tu sais quoi, je vais l'écouter une fois. » Puis ce CD-là est jamais sorti de ma voiture depuis ce temps-là.
Ah ouais, mais du coup, c'est trop triste. Tu n'y es pas allé alors que tu aurais pu, quoi.
Hey, je sais, je suis tellement déçu, là. Ah, j'aurais aimé ça, là.
Ouais, je comprends. Moi, j'avais dit non à un concert de Bob Dylan et c'est juste après que j'ai commencé à vraiment écouter sa musique. Donc c'est pareil, je regrette, parce que c'était l'époque où il faisait encore des bons concerts en plus, mais bon.
En 1966?
Exactement, voilà. Non, c'était quoi? C'était année 2000, tu vois.
Okay, okay. Ouais, c'est vrai.
Il chantait encore à peu près dans son micro, quoi.
Ouais.
Donc voilà. Mais ok, mais alors c'est marrant parce que t'as dit non à Bruno Mars parce que tu disais que c'était de la musique un peu de radio, alors que tu sortais quand même, encore une fois, d'une adolescence où t'avais écouté la musique de radio par excellence.
Ouais, mais je pense qu'on fait comme... Des fois, on fait vraiment le full circle, dans le sens qu'on commence à quelque part, on écoute de la musique radiophonique. Après ça, on a comme une petite crise d'adolescence. Puis, à un certain point, ben, on revient à aimer cette musique-là qu'au départ, on... Ben, c'est ça, c'est comme je disais plus tôt, l'ironie, la réalité rattrape l'ironie. Puis c'est un peu ça qui s'est passé avec Bruno Mars... J'étais rendu dans ma passe où je voulais pas écouter la musique de la radio, puis finalement j'ai réalisé à quel point c'était bon. Fait que, ouais.
Et là, dans une autre réalité, si ta mère te disait qu'elle avait un ticket pour aller voir Avril Lavigne, t'irais?
Ah, ça c'est certain. C'est certain que j'irais. Puis d'après moi, genre, si le spectacle était dans ma ville, je retrouverais beaucoup de mes amis du secondaire. À cet endroit-là.
Ah oui?
Puis là, les retrouvailles, moi, ça va faire 10 ans que... Le secondaire, c'est le collège pour vous, je pense. Fait que là, ça va faire 10 ans que j'ai fini le secondaire. Puis les retrouvailles, c'est cet automne. Puis d'après moi, ils vont vouloir comme faire une espèce de playlist de chansons nostalgiques. Puis il va sûrement avoir quelques chansons d'Avril Lavigne au retrouvail.
Ah bah oui, mais ça, il n'y a rien de tel que la musique pour rapprocher, effectivement. D'ailleurs, est-ce que t'as eu soit ça, toi? Alors, c'est pareil, plutôt à un âge un peu plus avancé, on va dire, à un âge où t'as commencé vraiment à avoir des goûts musicaux qui sont encore tes goûts actuels, on va dire, qui vraiment te suivent et que tu valides entièrement. C'est-à-dire pas quelque chose qui est juste ou en partie empreinte nostalgique comme Avril Lavigne, tu vois, quelque chose que t'as découvert, je sais pas, à 16, 17 ans, que tu aimes encore toujours autant. Est-ce que t'as fait des rencontres grâce à ça, grâce à la musique, grâce à l'amour de cet artiste, de cet album, etc.?
Ouais, ben je pense qu'à partir de l'âge justement 16, 17 ans, j'ai découvert plus les goûts musicaux qui allaient me suivre pour le restant de ma vie. J'ai commencé à écouter du blues. En écoutant du blues, ben on écoute des vieux bluesmen style B.B. King, mais aussi John Mayer, qui a vraiment marqué mon style de comment je joue de la guitare. Tu sais, j'ai écouté toutes ses vidéos live. J'étais allé le voir deux fois en spectacle. Puis c'est vraiment... c'est un artiste que j'aime toujours puis que je respecte vraiment son travail. Fait que il y a ça. Puis sinon, il y a un guitariste australien qui s'appelle John Butler. Puis quand j'ai découvert ça, ben après ça, j'ai juste voulu comme jouer de la guitare comme lui. Puis je pense que ça a vraiment influencé mon jeu de guitare.
Oui, ok, d'accord. Et donc ton premier album, effectivement, est sorti en 2016, si je dis pas de bêtises. Et donc en 2016, donc c'était il y a 7 ans. Donc on n'est pas tout à fait à cette dite période où tu découvres ces artistes que tu admires, mais on n'est quand même pas longtemps après ta rencontre avec eux, quoi. Et toi, alors je suppose que tu observes une... pas une amélioration forcément, mais un changement en tout cas dans ton style musical à toi en tant qu'artiste depuis ton premier album jusqu'au troisième. Et est-ce que t'as l'impression que tu fais le genre de musique, c'est-à-dire est-ce que tu estimes que tu fais de la musique qui ressemble au genre de musique que tu aimes, ou est-ce que tu arrives à t'affranchir de ça et à faire une musique que tu aimes mais qui ne ressemble pour autant pas à ce que tu écoutes d'habitude?
Ouais, mais des fois c'est une question que je me pose, parce qu'il y a vraiment, il y a la musique qui est le fun à jouer, puis il y a la musique qui est le fun à écouter. Puis des fois j'écoute de la musique que je ferais jamais. Admettons, je suis vraiment un gros fan de jazz, mais je ferais jamais de la musique instrumentale jazz sans paroles. Les textes, c'est trop important pour moi. Mais puis des fois j'écoute ma musique puis je me dis, j'ai pas envie d'écouter ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Probablement juste parce que c'était le fun à créer sur le moment même. Fait que, ouais, ben, je pense que de plus en plus, j'essaie de faire de la musique qui ressemble à ce que j'écoute, mais ça reste que il y a des choses qui se passent dans ma tête que je comprends pas. Là, je vais aller voir un spectacle de musique country, puis je vais arriver dans mon studio, je vais essayer de faire une chanson country. Trois semaines plus tard, je vais être comme, pourquoi j'ai fait ça?
Une petite crise d'adolescence ouais. En retard. Et tu dis que les textes sont importants pour toi, donc notamment dans la conception de ton œuvre à toi. Mais alors, du coup, est-ce que c'était aussi le cas quand tu écoutais notamment Avril Lavigne? Alors, je sais qu'on était petits, mais bon, moi, petite, je sais que j'allais voir des traductions de textes parfois sur Internet pour comprendre de quoi il s'agissait. Est-ce que tu savais déjà un petit peu de quoi parlait Complicated ou pas?
Probablement certains mots, mais vraiment pas toute la chanson. Puis déjà, à cet âge-là, je jouais de la guitare, puis j'essayais de composer mes propres chansons. Puis il y a un terme pour le fait de chanter dans quelque chose qui ressemble à de l'anglais, mais que c'est pas de l'anglais. On appelle ça du yogourt.
Là, ouais, nous aussi.
Yogourt, mais vous autres, c'est yaourt, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Fait que, ben, j'étais dans mon sous-sol avec ma guitare, puis là, j'essayais d'imiter une chanson d'Avril Lavigne, mais sauf que je chantais toutes les paroles en yogourt. Fait que ça donne une idée à quel point je comprenais les textes, là.
Ouais, je vois très bien. Et puisque tu fais partie des artistes que j'interview qui parlent d'une daube, donc qui date d'un autre temps, donc d'une autre partie de ta vie ou d'où tu étais plus jeune, est-ce que toi aussi, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu tous passés par ça, mais est-ce que tu as eu une période de un peu de snobisme en musique justement? Moi, c'est l'exemple que je ressors toujours. Alors En plus, celui-ci est assez général. J'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont passé, ce cap. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je sais que quand j'avais 13-14 ans, j'écoutais les Beatles et le reste, c'était de la merde. Est-ce que tu avais ce genre de snobisme aussi?
Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment venu avec à l'âge de 16-17 ans, quand je me suis mis à écouter vraiment la musique, un peu comme toi, la musique plus vieillot des années 70-60. Moi aussi, j'ai eu ma passe Beatles comme tout le monde. Sinon, j'écoutais du blues, j'écoutais du rock. Puis le rock, souvent, ça vient comme avec un « je m'en foutisme ». Tu portes des chandails noirs, puis t'es genre, t'as les cheveux longs, puis tout ce qui est un peu... C'est parce que c'est tellement des esthétiques contraires, la musique pop. Surtout à cette époque-là, au tournant fin 2000, début 2010, tu sais, ce qui jouait à la radio, c'était du Britney Spears, Usher. C'était tellement peaufiné, c'était tellement comme propre, si on veut, que quand t'écoutes de la musique rock... Mais c'est complètement aux antipodes. Fait que oui, j'ai eu ce snobisme-là. Ça m'a pris du temps. Puis même au cégep aussi, le cégep qui est comme l'école supérieure, avant l'université au Québec, où j'ai étudié la musique, ben là, par exemple, tu rentres dans une espèce de vortex de snobisme intense où, étant donné qu'on apprend la musique jazz, qu'on apprend des affaires, on veut comme faire de la musique tellement complexe, mais qui sert complètement à rien. Tu sais, pourquoi on se force à faire de la musique qu'on n'écouterait pas nous-mêmes? Fait que là, j'ai eu cette partie-là où tout ce qui était trop simple, comme la musique pop, je voulais rien savoir, mais au final, je faisais juste renier mes vrais sentiments profonds.
Ah oui, mais là, c'est encore pire, parce que c'est vrai que t'étais vraiment juste encouragé même à être snob, quoi. C'était pas un combat en solitaire contre le monde. Vraiment, t'avais plein de gens qui te disaient « bah oui, il faut penser comme ça, quoi ».
Oh non, c'est ça, tu sais, à l'école, en musique. Mais après ça, c'est fou comment je rencontre des gens qui sont en train de faire des projets musicaux tellement simples, puis des trucs épurés. Mais je pense que ça prend de la maturité pour aimer la pop.
Bah, je pense que t'as raison, effectivement. Je pense que t'as raison. Je pense qu'on est un petit peu interpellé quand on est jeune, mais qu'effectivement, on se l'autorise pas. Et c'est qu'une fois qu'on a appris que, bon, bah finalement, c'est jamais vraiment la honte d'aimer de la musique, qu'on peut se le permettre. Mais justement, j'ai l'impression que donc on est tous plus ou moins passés par cette phase de snobisme où on est en train de, bah voilà, de se construire avec un style particulier. Effectivement, j'ai l'impression qu'on est tous passés par une phase Beatles ou quelque chose du genre, quoi. Mais même si je regrette pas du tout d'avoir été dans cette période vraiment intense où pour le coup je me levais le matin, j'écoutais les Beatles, je me couchais le soir, j'écoutais les Beatles, je regrette pas parce que j'étais vraiment en amour et je le suis toujours. Ça reste un groupe très très important pour moi. Mais il n'empêche que ça veut dire que j'ai quand même perdu bien 4-5 ans de curiosité et donc de culture sur ce qui sortait à ce moment-là. Et j'ai un peu l'impression que même si j'essaye de m'en affranchir un petit peu, je suis toujours un petit peu bloqué dans ce truc de « ouais, mais moi, j'écoute du rock anglais, en fait ». Alors que même si c'est vrai que j'en écoute, ben, j'écoute vraiment plus du tout que ça, quoi.
Ouais, mais il y a aussi le fait qu'on peut apprécier un style de musique selon le bagage culturel qu'on a. Puis, admettons, si tu n'avais pas écouté les Beatles avant de découvrir la musique pop ou de l'apprécier, mais peut-être que tu n'aurais pas comme eu les référents pour comme faire « Ah, mais cette chanson-là, je l'aime parce que ça me fait penser à telle autre chose. » Ou, tu sais, comme quand on écoute Tame Impala, après avoir écouté les Beatles, ben... Au final, c'est du Beatles moderne avec des sons psychédéliques, mais c'est ça, c'est souvent, c'est comme c'est la perception qu'on a est bâtie sur nos bagages culturels. Fait que moi, je pense que si j'avais pas écouté de la musique compliquée, j'aurais pas pu apprécier la musique simple des chansons pop, tu sais.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai que c'est quand même quand tu étais plus jeune aussi que tu avais bien aimé Avril Lavigne. Donc finalement, la graine était déjà un peu plantée et c'est après que tu as fini par l'assumer plus. Et du coup, tu me disais avant qu'on commence l'interview que donc toi-même, tu avais un projet qui parlait de plaisir coupable.
Oui, c'est ça. Ben, j'ai une émission, une web-série sur une chaîne québécoise qui s'appelle Nouveau.ca. L'émission s'appelle « Plaisir coupant ». Puis ça parle... j'invite des artistes émergents à la maison chez nous à l'Île-d'Orléans. Puis on fait... On s'installe dans ma cuisine, on fait à manger. Puis on parle de... On parle de la musique qu'on écoutait durant notre jeunesse ou des choses qu'on est peut-être un peu gêné d'écouter mais qu'on aime. Fait que c'est vraiment dadon, en fait, qu'aujourd'hui on ait cette discussion-là ensemble. Puis, Puis après une courte discussion où j'apprends un peu plus à connaître les styles musicaux de l'artiste, on monte en studio puis on refait une de leurs chansons, mais selon le plaisir coupable, non assumé. Donc, admettons, ça donne une artiste de chez nous qui s'appelle Ariane Roy qui adore les chansons de Isabelle Boulay, qui est une chanteuse qui fait comme plus des ballades. Fait qu'on a décidé de faire une grosse ballade pop avec Hubert Lenoir qui est venu aussi nous aider. Sinon, il y a un chanteur, Étienne Copé, il adore We Are The World. Fait qu'on a fait une de ses chansons version We Are The World.
Ah oui, donc un peu en mode chorale et tout.
Ouais, ben là, étant donné qu'on était juste trois dans le studio, il a fallu qu'on s'invente des personnages. Mais ça donne vraiment quelque chose de super cool. Fait que c'est ça, il y a 7 épisodes. Je vous invite à aller écouter ça. Ça permet de découvrir des artistes, de voir c'est quoi aussi le travail derrière en studio, comment qu'on travaille. Puis aussi, ben on fait de la cuisine. Fait que c'est toujours ludique, là.
Ah, mais c'est trop bien. Mais je vais carrément aller voir ça. C'est archi intéressant. Et juste, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, du coup, s'est mis à imiter Bruce Springsteen ou pas dans We Are The World?
Oui, je pense qu'à un moment donné, je me suis mis à chanter avec une grosse voix. Puis en post-prod, on a réécouté ça, puis on a dit « Ah non, ça n'a pas de bon sens, là. Ça peut pas rester dans la chanson. » Fait que là, l'équipe de production, en fait, « Simon, faut que t'adoucisses un peu ça, parce que c'est trop intense, là, c'est trop humoristique. » Mais il y a vraiment des bonnes chansons. Pour vrai, là, il y a des tunes que, sans dire qu'ils sont meilleures que les originales, sont vraiment bonnes, là.
Bah, on n'est pas obligé de dire que c'est meilleur, mais en tout cas ça vaut le coup d'aller voir, c'est clair. Bah, c'est un super concept en tout cas. Bah, oui, c'est fou en fait, du coup qu'on s'en parle, parce que on a la même idée, si ce n'est que bah, moi je fais pas à manger, mais parce que déjà je déteste faire à manger dans la vie. Donc là je me force parce que j'ai des carences, mais c'est bon, je déteste ça et surtout je panique quand je suis en cuisine, donc ce serait pas du tout une bonne idée.
Mais c'est exactement ça qui s'est passé, parce que je vous cacherai pas que j'ai un petit TDAH non médicamenté, puis il ressort vraiment fort quand je me mets à cuisiner avec des caméras devant moi, là. Donc, la cuisine, c'est un désastre, mais la musique, c'est intéressant.
Ah, mais en même temps, ça rend le truc vraiment marrant. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que... Bon, là, c'est vraiment, je raconte ma vie, mais ne serait-ce que l'autre jour, j'étais en train de faire un dalle de lentilles. Bon, qui en soi, enfin, ça s'est très bien passé, quoi. Mais j'avais mis des oignons à frire le temps que je coupe des légumes. Et je savais très bien que ça finirait par cuire derrière moi. Enfin, c'était le but, le temps que ça cuise, pour que moi, je puisse couper des trucs. Ça a commencé à cuire, j'ai paniqué, j'ai cru que tout allait brûler d'un coup. Enfin... Donc ça n'aurait pas de sens, donc on fait bien de juste faire ça en étant posé devant nos micros.
Ouais, non, c'est ça, la version podcast, c'est moins stressant.
C'est beaucoup moins stressant. Bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention, c'était super de parler d'Avril Lavigne, je suis contente qu'elle ait deux hymnes maintenant, elle le mérite.
Ouais, puis là, ça reste encore, c'est indéfini si ces deux chansons c'est de la merde ou c'est des super bonnes... des super bonnes chansons.
En fait, mon but à moi, c'est vraiment de dire que, en gros, si ça plaît d'amour à au moins une personne, ça veut dire qu'il y a quelque chose à sauver dans cette chanson, quoi.
C'est vrai, vive Avril Lavigne.
Voilà, et ouais, et puis en plus, tu vois, vous êtes deux artistes qui ne vous connaissaient a priori pas, qui parlaient d'Avril Lavigne en plus de cette même époque. Donc, effectivement, même si je comprends bien qu'elle soit connotée trop mainstream maintenant, on n'en peut plus, etc., et bah, il y a au moins deux artistes qui sont là pour lui rendre hommage et je trouve ça beau. Elle ne le saura jamais, mais bon.
On va la défendre jusqu'au bout.
Et peut-être qu'un jour, je la recevrai sur mon podcast et elle me dira que sa dope, c'est Simon Curry.
J'adorerais ça.
Et bah, merci beaucoup en tout cas.
Merci à toi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.